le fameux MAC de veau à la zurichoise. Le plat typique du terroir zurichois. Il n'est pas rare de trouver ce plat à la carte des restaurants aux quatre coins de la planète. Il fait partie sans conteste des plats les plus connus et les plus appréciés de la cuisine suisse, avec les rostis qui l'accompagnent généralement. Aujourd'hui, c'est la spécialité de Zurich, que tous les touristes doivent de manger. D'ailleurs, grâce à Hiltil, il existe même une variante végétarienne. Pour ceux qui ne mangent pas la viande, on peut déguster l'émincé, pas de veau, peut-être de tofu à la zurichoise. Il semblerait qu'il soit consommé depuis le XVIIIe siècle. Pourtant, il n'est mentionné qu'en 1941 dans un livre de recettes. La recette ci-dessous vous permettra de faire venir de Zurich à vous. Il vous faut 500 g d'émincé de veau, coupé par le boucher en lanière d'environ 1 cm de large, 200 g de rognons de veau, pour ceux qui aiment les rognons, 200 g de champignons coupés en fines tranches, 3 échalotes hachées, 100 g de beurre, 5 cl de cognac, 1,5 dl de vin blanc, un bouquet de persil plat haché, 2 dl de fond brun, 2 dl de crème entière, huile de colza, sel, poivre, paprika. Est-ce que vous êtes venu ici pour m'entendre parler de cuisine? Vous n'êtes pas venu pour écouter quelqu'un parler de cuisine, non? Bah tant mieux, ça tombe bien parce que je ne suis pas venu ici pour vous parler de cuisine, bien que c'est intéressant la cuisine, parce que beaucoup de choses se passent autour d'une table. Aujourd'hui, mon titre, c'est « De quoi parlez-vous ? » De quoi parlez-vous ? De quoi parlons-nous ? Parce qu'on parle, vous avez vu, là, vous m'avez entendu parler, j'ai parlé d'une recette, vous étiez là, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce pasteur ? Ce jeune qui est là, au pupitre, alors qu'on est dans une église, il nous parle d'un émincé de veau à la zurichoise, mais c'est quoi ces histoires ? De quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Moi qui aime bien parler, de quoi parlons-nous ? De quoi parlons-nous ? Doté d'une langue, mais mieux encore d'un cerveau lui permettant de créer des sons qu'il reconnaît, l'être humain est bien le seul à pouvoir se vanter de parler et se comprendre. Du moins, ça dépend. Mais en tout cas, c'est vrai, on a la chance de pouvoir parler, d'émettre des sons, qui ces sons produisent des mots, des phrases, et d'échanger, de parler, de communiquer, du moins d'essayer, je dis bien d'essayer. En tout cas, on parle. En effet, l'humain a la chance de pouvoir parler, expliquer, raconter un tas d'histoires. Une chance, mais c'est aussi un moyen de se définir, de faire connaître aux autres ce qui nous intéresse. Vous êtes d'accord, on parle des choses qui nous intéressent. Lorsqu'on parle, les gens nous écoutent, et ce de quoi on parle va définir aussi qui on est, ce qui résonne dans nos cœurs. Je ne pense pas que le cuisinier qui prépare ce veau à la zurichoise, cet émincé à la zurichoise, va vous parler de chimie ou de nomenclature ou de l'atome. Je ne pense pas que ça l'intéresse tant que ça. Ou peut-être l'atome, bien entendu, du veau. Ou la nomenclature peut-être de la tomate. Je ne sais pas si elle existe. Mais je ne pense pas. Vous parlez des choses qui brûlent dans votre cœur. Vous parlez des choses qui vous passionnent. Ou du moins, je pense que c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Moi, je sais que j'aime parler peut-être justement de la cuisine, entre autres, j'en parle. Mais vous, de quoi parlez-vous ? De quoi parlez-vous ? Dans Matthieu 12, 34, on lit « C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. » J'ai juste pris la deuxième partie de ce verset. C'est de l'abondance du cœur que va parler notre bouche. Mais quelle est l'abondance de ce cœur ? Quelle est l'abondance ? Est-ce que c'est justement ce veau ? Est-ce que c'est peut-être cette chimie ? Est-ce que c'est peut-être les panneaux publicitaires ? Est-ce que c'est le marketing ? Quelle est l'abondance du cœur ? Parce que l'abondance du cœur, ce qui résonne dans votre cœur, va sortir de votre bouche. C'est inévitable. Mais ça va dépendre qu'est-ce qui est dans votre cœur. Ça va dépendre qu'est-ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, on entend un tas d'histoires. Mais la plupart de ces histoires, je ne crois pas qu'elles rendent gloire à Dieu. La plupart de ces histoires qu'on lise, c'est des crimes, c'est la détresse, c'est la perversité, c'est la jalousie, c'est le désir, la convoitise, les orgies, le rejet de la religion, le rejet de la piété. La plupart de ces choses, c'est ce qu'on entend au quotidien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Moi, je crois que la plupart des choses qu'on entend, c'est ça. Combien d'entre nous parlons du Christ ressuscité ? Combien d'entre nous parlons de Jésus qui a vaincu la mort et qui est tout-puissant encore aujourd'hui ? Combien d'entre nous parlons des miracles qu'il a accomplis et qu'il accomplit encore aujourd'hui ? Combien d'entre nous parlons de la seule personne qui puisse nous délivrer de tous nos péchés ? Combien d'entre nous sommes dans la joie de connaître Jésus, celui qui est mort et ressuscité ? Combien d'entre nous sommes préoccupés par les âmes perdues ? Ce matin, j'ai envie de vous emmener marcher avec Jésus. Ce matin, j'ai envie de vous emmener discuter et définir de quoi vous parlez, ce sujet qui est si important pour la vie du chrétien, nos sujets de discussion. Alors vous pouvez lire, je les ai mis les versets, on va commencer. Prenez Luc 24, à partir de 13 à 34, un texte qui est très connu de la plupart des gens qui lisent leur Bible. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, vous avez la chance de pouvoir lire aujourd'hui et d'en parler après. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant, qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, Jésus. Mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. On continue encore quelques versets, restez avec moi. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous alors qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Amen. Vous avez lu 21 versets, bravo. Bravo, peut-être c'est les premiers de votre journée, j'espère que ce ne sera pas les derniers. Un magnifique passage, vraiment un magnifique passage. Je savais avant de partir au Liban, avant même les vacances, que je prêcherais donc ce dimanche. Mais je ne savais pas sur quoi. Alors que je priais, puis je demandais à mes seigneurs, je vais parler de quoi. Il y a vraiment ce texte qui est revenu dans mon cœur, de ce Luc 24, de ce chemin à Emmaüs. Il tapait vraiment sur mon cœur. Je disais, mais qu'est-ce que tu veux ? Et alors que je préparais ce message, il y a vraiment eu ce sujet de quoi on parle. Parce que dans ce trajet, on va voir un peu qu'est-ce qui anime les disciples, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus et qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que vous avez envie de marcher avec moi ce matin aussi et avec Jésus ? Et surtout avec Jésus, mais avec moi dans votre attention, s'il vous plaît. On voit ces disciples qui marchent, ils quittent Jérusalem, on les voit préoccupés. Ils parlent, ils sont là, les deux, en train de parler, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tu sais, Jésus, on les voit, ils sont tellement préoccupés parce que leur Messie, leur Rabbi, leur Jésus, leur Maître est décédé, est mort, il a été crucifié. Et ça fait 3 jours, on se trouve, on est un dimanche. On est dimanche. Troisième jour après la crucifixion. Marie s'est levée très tôt avec ses amis pour aller voir au tombeau. Elle voulait venir avec des aromates pour parfumer le corps, pour embaumer le corps de Jésus, mais il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Jésus n'est plus dans le tombeau. Marie et ses amis sont les premières à réaliser, à vivre cette réalité que Jésus n'est plus dans le tombeau. Mais où est-il ? Mais où est-il ? L'ange leur apparaît. Elles repartent. Elle partage ça aux disciples, les disciples ne comprennent pas, mais de quoi vous parlez ? Mais vous êtes tarés. Est-ce que vous êtes sûr qu'un ange vous a dit qu'il était vivant ? Les disciples anéantis s'en vont, mais concernés. On voit ces deux disciples, Cléopas et son ami, on ne sait pas, parlent de ce qui vient d'arriver à Jérusalem, préoccupés. Ils parlent de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié. Ils parlent de leurs espoirs. qui se sont effacés, de leurs espoirs qu'ils avaient de voir ce Jésus-Christ de Nazareth conquérir l'Empire romain, délivrer le peuple d'Israël. Et ils se disent, mais c'était lui. C'était lui qui devait venir pour délivrer Israël. C'était lui. Tu n'es pas d'accord, Cléopas ? Ils sont en train de parler triste, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible. Ce Jésus sur qui on avait mis tous nos paris, c'était ce Jésus qui devait nous délivrer. Ils décident de quitter Jérusalem. Ils décident de quitter cet endroit où pour eux il n'y a plus d'espoir. Cet endroit où il y a la croix, ils voient encore la mort de Jésus, il y a le tombeau, mais ils n'arrivent pas à voir la résurrection. Ils partent, ils s'en vont, parce que pour eux il n'y a plus d'espoir. Parce que pour eux, Jérusalem, ça signifie l'échec. Ils s'en vont, ils partent, ils vont simplement, ils décident de s'en aller loin. Je ne veux pas faire face au défi. Et vous savez, moi, quand je disais ça, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est face au défi ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à une situation qui est difficile ? Souvent, on a envie de dire, bah, allez, je m'en vais, parce que là, de toute façon, je vois pas la porte de secours, je ne vois pas la solution, je m'en vais, je pars. Lorsqu'on fait face au défi, des fois, on a envie de dire, ouais, je m'en vais. Je me cache, je pars. On ne voit pas l'espoir, on voit pas la porte de secours, on ne voit pas le tombeau qui est vide, on ne voit pas Jésus qui est vivant. Ses disciples partent parce que leur espoir est anéanti. Leur espoir personnel, vous comprenez bien ce que je parle, leur espoir personnel, leur désir personnel, ce qui plairait à leurs yeux de voir, mais pas le plaisir de Dieu. Dans ce passage, on voit justement les disciples, ces disciples qui parlent de la mort de Christ, ils sont préoccupés, ils sont tristes, mais aussi, comme je disais, la mort de leurs propres plans, leurs intérêts qui étaient centrés sur la personne de Jésus comme libérateur du peuple devant l'oppression des Romains, et non comme le sauveur et le Messie. Ils ne sont pas en train de parler, « Ouais, Jésus, c'était celui qui était appelé à notre Messie, Jésus, c'est celui qui est appelé à sauver notre vie, à sauver nos péchés, à nous délivrer. » Non, 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 non. Ils sont en train de parler, « Jésus devait être celui qui allait restaurer la justice d'Israël, qui allait venir restaurer notre peuple. » Leur regard n'est pas sur le bon Jésus. Leur regard est sur la mort de Jésus, pas sur la résurrection. Imaginez, je vous donne une petite illustration assez amusante. Ronaldo, ce célèbre joueur de foot portugais. On parle du Ronaldo portugais. L'équipe de foot du Portugal, ils mettent leur espoir sur le talent de Ronaldo. Et ils sont à la veille d'un grand match. Entraînés et prêts, leurs cuisses sont solides et tout. Ils ont les bonnes chaussures, ils ont les shorts, les maillots, tout. Ils passent une belle soirée et bam, qu'est-ce qui se passe ? Ronaldo mange un mauvais shawarma et il est dans son lit, il ne peut pas se lever parce que quand il se lève, il va aux toilettes directement. C'est pas possible, c'est fini pour Ronaldo, il ne jouera pas ce match. Et là, vous savez, dans l'équipe, c'est la détresse, c'est là, oh non, mais non, pourquoi ? Mais Ronaldo, on imaginait que tu allais marquer les goals et tout, on se disait, mais c'est toi qui vas nous permettre de gagner. Eh ben non, il va falloir faire autrement. C'est la même chose, ses disciples partent, ils sont là, mais non, mais ce Jésus sur qui on avait placé tous nos paris, ce Jésus qu'on pensait être celui qui allait délivrer Israël, eh ben non. Ainsi, on se retrouve dans une situation où les disciples manifestent leur tristesse, leur désarroi, mais mince, moi j'étais sûr que c'était lui. Ils n'arrivent pas à voir la promesse de Dieu accomplie en Jésus, ils n'arrivent pas, leurs yeux sont fermés. Leurs yeux étaient fermés, on lit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ils n'arrivaient pas à voir. Pour eux, c'était l'échec, c'était la crucifixion, c'était Ronaldo, il est malade. C'est pas possible, on va pas pouvoir gagner. Ils n'arrivaient pas à voir le sacrifice et la résurrection annoncés dans la parole. Ils n'arrivaient pas. Ils restent bloqués sur leur situation présente et leur foi se retrouve complètement anéantie. La foi du Sauveur, elle est anéantie. Leur foi, c'est comme si votre foi, quand Jésus il était là, en train de donner des coups, en train de sauver les malades, en train d'accomplir ce que vous imaginez, bam, c'est fini, votre foi, pouf, elle plonge. Vous n'avez plus la foi. C'est pas possible, on ne va pas gagner. Parfois, c'est vraiment la même chose, et j'ai envie de dire, même souvent, c'est la même chose pour nous. On est comme ses disciples. On ne regarde pas les promesses de Dieu. On regarde notre situation. On regarde l'échec qu'on vient peut-être de vivre. On regarde notre compte bancaire qui affiche un chiffre en rouge. On est là, c'est pas possible. On n'arrive pas à voir. C'est la situation actuelle nous empêche de voir l'invisible, nous empêche de voir avec les yeux de la foi. Et qu'est-ce qu'il nous dit Paul en 2 Corinthiens 5, 7 ? J'ai juste envie de dire, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Ses disciples sont en train de marcher, préoccupés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils regardent avec leurs yeux, ils ne marchent pas avec leur foi. Ils ne comprennent pas la parole, ils n'ont pas la foi, mais est-ce que vraiment ce qui était annoncé, c'est vraiment ce qui s'est passé? Ils n'arrivent pas. Imaginez Joseph, tout jeune, même pas 15 ans, un rêve où il voit sa famille se prosterner devant lui. Combien d'années? Plus de 15 ans pour que cette prophétie, pour que cette promesse qu'il avait reçue de Dieu s'accomplisse. Imaginez encore 2 ans dans la prison avant que le pharaon l'amène, avant que Dieu le propulse à être le premier ministre du pharaon. Dans cette prison, il s'est dit, mais de passer d'être un objet, mais imaginez, mais qu'est-ce qu'il s'est dit, Joseph, pendant toutes ces années? Mais Seigneur, tu m'avais bien dit ça. Je me rappelle, j'étais pas fou. J'ai bien vu ce rêve que tu as mis dans mon cœur, cette promesse que tu m'as dit. Les yeux de la foi. Tout comme Joseph, il nous arrive que nous soyons dans une situation financière, physique, justement qui semble être perdue, qui semble être dans une situation où on est en prison, on ne voit pas la porte de secours, on n'arrive pas, on est là, mais ce n'est pas possible. Mais vous savez, Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins. Dieu dit, mes promesses sont oui et amen. Mais est-ce que votre foi le croit? Est-ce que vous croyez? Ou est-ce que vous regardez avec vos yeux? Si nos yeux sont fermés, alors nous ne pouvons pas voir les promesses de Dieu. Si nos yeux sont fermés, si les yeux de notre foi sont fermés, ce n'est pas possible de voir Jésus ressuscité. Nous manquons de foi pour saisir la promesse. Mais ne vous découragez pas, mais ne nous décourageons pas, parce que regardez ce qui se passe. Alors que les disciples parlent du rabbi, alors que les disciples, Cléopas et son ami, parlent de ce qui s'est passé, ils se soucient de leur Jésus. Ils l'aimaient. On entend qu'ils l'aimaient, on sait qu'ils sont préoccupés par Jésus. Ils étaient en train de parler de ça, mais ils disaient, non, qui c'est qui vient? C'est Jésus. Jésus vient les rejoindre. On dit ici, il leur dit, là on voit justement, ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce bout, c'est, alors que les disciples, ils parlent de Jésus, mais c'est plutôt une plainte un peu, c'est là, ouais, Jésus, bon, c'est vrai que c'était un prophète, il était incroyable, mais bon, il est mort. Et nos plans, ils sont morts. Mais ils parlaient, ils se préoccupaient de Jésus. Ils étaient là, mais Jésus, c'était lui, on l'aimait, on voulait le voir. On voulait le voir réussir, on voulait le voir gagner. Jésus entend le cœur de ses disciples. Jésus entend votre cœur, entend mon cœur. Même lorsque vous êtes dans la détresse, Jésus vous entend si vous parlez de Jésus. Si vous êtes préoccupé de Jésus, il va entendre. Peut-être que vous êtes là dans une situation où justement vous êtes triste, mais est-ce que vous parlez de Jésus? Et vous, parlez-vous de Jésus avec vos amis? J'ai mis ces questions. Est-ce qu'on parle de Jésus à nos amis? Est-ce que ce matin, je me disais alors que j'étais assis, est-ce que ce matin en voiture, vous avez parlé de Jésus avant de venir à l'église? Ou peut-être vous étiez en train de dire, ouais, j'aimerais bien quand même m'acheter une nouvelle voiture, ou tu sais, genre ce qui s'est pas, oh, puis les feux d'artifice hier, j'ai pas trop aimé celui-là, non. Ou est-ce que vous étiez concerné par ce que Jésus fait aujourd'hui dans votre vie? Et ce qu'il fera demain dans votre vie? Est-ce que vous êtes concerné par ça? Quels sont vos sujets de discussion? Êtes-vous intéressé par ce que Jésus fait, par sa parole et ses merveilles? Êtes-vous préoccupé des affaires de Jésus ou êtes-vous préoccupé des affaires de ce monde? Dieu nous écoute. Dieu nous écoute lorsqu'on parle. Il n'y a pas un mot qui lui échappe. Et là, attention, mais je me dis quand je serai devant Jésus, excuse-moi, je sais que j'ai dit des choses là. Il n'y a pas un mot qui lui échappe. Peut-être ce matin, il y aura plusieurs mots qui vont vous échapper de ce que je dirai. Mais pour Jésus, il n'y a aucun mot qui va lui échapper. Rien. Lorsque vous parlez, Dieu écoute. Lorsque vous parlez de Jésus, Dieu tend l'oreille. Oh, il parle de moi. Il parle de moi, là. Yes, il parle de moi. Ils sont intéressés à savoir qui je suis. Nous ne pouvons pas espérer attirer l'attention de Dieu si nous ne sommes pas préoccupés par son royaume. Si vous préoccupez de toutes les autres choses qui sont dans votre vie, puis le dimanche, vous venez, oh oui, je vais me préoccuper un peu de Jésus dimanche, parce que bon, bah, c'est dimanche matin, c'est le jour que je consacre à Jésus, ou plutôt les heures que je consacre à Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va vous regarder se préoccuper quand vous êtes en train de pleurer? Oh Jésus, mais tu vois, Jésus, il cherche des gens qui sont consacrés, des gens qui ont envie de le suivre, des gens qui parlent de lui, des gens qui espèrent en sa parole, même quand les choses ne se passent pas. Est-ce que vous retournez dans votre parole? Est-ce que vous continuez de lire? Les disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs, ils avaient le corps lourd. Mais néanmoins, j'aimerais le noter, néanmoins, ils étaient passionnés par leur rabbi. Ils avaient passé, peut-être, je ne sais pas, Cléopas, j'avoue, je n'ai pas fait l'étude approfondie du temps que Cléopas a passé avec Jésus, mais à mon avis, ils ont passé beaucoup de temps avec lui. Ils étaient passionnés, ils voulaient faire toute la même chose que Jésus. Ils étaient passionnés par lui, par ses enseignements. Ils le disent un peu plus loin que c'était, il dit, « Et toi, tu ne connais pas un de nos non, non, es-tu le seul à... ?» Il leur répondit, « Ce qui est arrivé au prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tous les hommes. » C'est ça qu'ils avaient comme connaissance de Jésus, leur maître. Il était puissant en parole. Là où il allait, se passait des choses. Ils étaient préoccupés. Mais Jésus, justement, quand il les voit, il voyait ses disciples partir. Il était là, non, j'ai pas envie, partez pas. Il est ému de compassion. Et notez bien ça, Jésus est ému de compassion lorsqu'il vous voit. Même si vous êtes dans la tristesse, même si vous peut-être vous voyez pas encore avec la foi, la promesse, Jésus est ému de compassion si vous vous êtes préoccupé de lui. Si vous retournez le chercher. Dieu va vous retrouver là où vous êtes. Jésus viendra toujours nous rejoindre lorsque nous parlons de lui, car il se soucie de ses brebis et aime les rejoindre là où elles se trouvent. Dieu se préoccupe de vous, de chacun des détails de votre vie. Il n'y en a pas un qui lui échappe, pas un. Mais nous, est-ce qu'on se préoccupe de lui? Alors qu'on se préoccupe de lui, on pourra le reconnaître. Amen. Alors que notre passion, notre cœur résonne pour la parole, pour Jésus, alors, lorsqu'on sera dans la parole, on va pouvoir le reconnaître. Jésus vient, les rejoint, il leur pose des questions. « Mais pourquoi êtes-vous si triste ?» Mais il va faire plus que poser des questions. Il va commencer à prendre la parole, il va commencer à leur expliquer tout sur lui depuis Moïse et les prophètes. Qui de mieux comme enseignant que Jésus lui-même ? Waouh ! J'imagine quand même... Les deux disciples en train de marcher, Jésus qui vient leur enseigner la parole. Là, c'est carrément le Saint-Esprit qui révèle la parole, ça doit être incroyable. Je ne sais même pas comment c'était. Mais c'est, à ce moment-là encore, les disciples, ils marchent, mais ils n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à voir, on voit, ils lisent, mais qu'est-ce que tu as vu? Et comment le chef des prêtres, bam, ils continuent, on espérait. Et là, ils parlent même, les disciples, ils disent, on a vu les femmes ont dit comme ce qui était marqué dans la parole, mais ils n'arrivent pas à voir. Jésus est avec eux, il va commencer à leur raconter exactement ce que les prophètes ont dit, mais ils n'arrivent pas à voir. Ils ne peuvent entendre la vérité car leur cœur n'est pas disposé, leur intelligence est construite sur les choses du monde et non sur la parole de Dieu. J'ai mis en gras aussi, homme, voilà ce que Jésus dit, mais alors que la vérité est exposée devant eux, mais qu'eux ne peuvent pas voir, il leur dit, mais homme sans intelligence, et quand on dit homme, bien sûr, homme, femme, on parle de l'être humain. Sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que vous croyez à ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Vraiment? Alors on va marcher dans une vie de miracle, dans une vie où justement les malades sont guéris, où vos victoires sont quotidiennes. Est-ce que vous croyez à ça? Ben moi je demande à Dieu pour avoir encore plus de foi, pour croire exactement chaque parole qui a été marquée dans ce livre, dans la parole de Dieu, du Dieu vivant. Parce que tout ce qui est marqué ici, sont des promesses de oui et amen. Tout ce qui est marqué ici, c'est la vérité, si on y croit. Ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à le reconnaître. C'est trop difficile parce qu'ils sont tellement figés sur leur désir. Leur foi n'est pas assez élevée, c'est de l'incrédulité. L'incrédulité vous empêchera de voir les promesses de Dieu. L'incrédulité vous empêchera de vivre la victoire dans votre vie et dans ma vie. M'empêchera à moi aussi. Je ne vais pas vous mettre vous, mais moi aussi. Si on est incrédule, si on ne croit pas ce que Jésus dit, on ne pourra pas le voir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Avant que Jésus ressuscite Lazare, c'est ce qu'il dit à Marthe et Marie. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras, mais il faut croire. Ou la même chose avec Bartimée qui est guéri. Genre, quand il vient guérir cet aveugle, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bah, que tu me permettes de recouvrir la vue. Et dit « Ok, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. » Parce qu'il a cru, il a pu voir le miracle. Parce qu'il a cru, ils ont pu voir. Ils peuvent voir la puissance de la parole. Mais parce que notre foi doit être l'instrument qui nous permet de voir qui est Jésus, ce qu'il a accompli. Si je vous dis que manger des pommes, c'est bon pour la santé et que cela vous permettra d'augmenter vos capacités physiques, c'est bien ce que je dis, non? C'est peut-être une vérité, peut-être pas. Il va falloir me croire. Bien sûr, sur quoi vous allez dire, est-ce qu'il a vraiment fait des recherches ou pas? Et si vous ne croyez pas, il va falloir que vous ayez votre propre révélation. Il va falloir que vous mangiez des pommes, que vous vous exerciez et vous réalisez que ça va vous permettre d'être plus en meilleure santé, d'avoir une meilleure capacité physique. Vous allez devoir avoir une révélation par vous-même. Mais il faut croire. Vous devez croire. On ne doit pas rester comme ses disciples. On ne peut pas rester comme ses disciples. Les temps dans lesquels nous vivons sont trop importants. Nous devons garder notre regard sur Jésus et sur sa parole de façon permanente, rester vigilants. Et de cette manière, alors que nos yeux sont figés et sont fixés sur la parole, alors nous pourrons reconnaître Jésus. Les brebis reconnaissent la voix du berger, c'est ce qu'on dit, mes brebis reconnaissent ma voix. On est d'accord, vous le connaissez, non? Puis des fois on se dit, mais moi je n'entends pas la voix de Jésus. Mes brebis, ceux qui restent près de lui, ces brebis, c'est celles qui sont proches du berger, non? Le berger, quand il est vers ses moutons, les moutons ils sont proches du berger, non? C'est rare de voir un troupeau dispersé quand il y a un berger, parce que les moutons ils restent ensemble. On est comme ça, on reste près du berger. Et donc on reconnaît sa voix, on reconnaît quand il siffle, on reconnaît quand il fait « Hé, Marguerite, t'es où ?» Il appelle ses brebis, elles les reconnaissent tout de suite, elles viennent, parce qu'elles se sentent en sécurité, parce qu'elles reconnaissent la voix de leur maître. Est-ce qu'on reconnaît la voix de notre maître? Si nous connaissons la parole de Dieu, alors nous reconnaîtrons lorsque Dieu nous parle à travers sa parole. Nous reconnaîtrons ses promesses, nous reconnaîtrons les intrus parmi la vérité. Nous le reconnaîtrons parce que nous le connaissons. On le reconnaît parce qu'on le connaît. S'il y a quelqu'un qui vient vous dire, vous avez l'habitude d'être au travail et puis il y a votre chef, il vous appelle, Nico, viens voir. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous appelle, vous êtes, c'est qui cette voix, je ne sais pas, mais qui c'est qui m'appelle, vous n'allez pas reconnaître. Plus vous passez de temps vers la personne que vous aimez, plus vous allez la connaître, plus vous allez la reconnaître. Je pense quand Isabelle appelle Manu au téléphone directement, « Ah, salut ma femme, je t'aime, je sais que c'est toi. » Du moment où elle dit juste un mot, elle le reconnaît, parce qu'elle a l'habitude de l'entendre, parce qu'elle a l'habitude de passer du temps avec, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même chose pour nous avec Jésus ou pas? La parole de Dieu est le révélateur de Jésus, c'est la parole qui révèle qui est Jésus. Amen. C'est la parole qui révèle qui est Jésus. Ainsi nous voyons les deux disciples qui arrivent à leur destination, et là ils s'arrêtent. Et moi, j'aimerais vous rendre attentif. Là, ils s'arrêtent, ils se disent... Lorsqu'ils firent prendre le village où ils allaient, donc à Emmaüs, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais là, les disciples, ils disent non. En fait, ils arrivent à leur destination. Pour eux, ça s'est arrêté. De toute façon, même ce que Jésus racontait, ils n'arrivaient pas à voir. C'est bon, voilà, on est au café, on va s'arrêter parce que c'est là où on voulait aller. Mais là, ils voient que Jésus veut partir. Ils se disent, ah non, quand même, c'était cool ce qu'il nous racontait. Ils disent, mais reste avec nous. Et Jésus, alors, il va rester avec eux. Vous savez, Jésus, ce qui est magnifique, c'est qu'il est tout puissant, il peut tout faire, mais il ne s'impose pas. Il ne va pas s'imposer dans un cœur qui n'a pas envie. Il vous laisse libre, il nous laisse libre. Tout au long de notre vie, on est libre de choisir Jésus ou de le refuser. On est libre d'accepter ses promesses ou de ne pas les accepter. On est libre de croire à sa parole ou pas, on est libre. Il ne veut pas s'imposer. Il demande que nous, on l'invite. Il veut que ce soit nous qui lui disons, viens Jésus, viens passer du temps avec moi, j'ai envie. Alors là, il est là, il sort, yes, je veux rester avec toi. C'est la première des choses qu'il va faire. Il va dire, bien sûr, je viens avec toi. Bien sûr, je veux passer du temps avec toi, c'est clair. Si tu me demandes, je viens. Si tu me cherches de tout ton cœur, alors tu le trouveras. C'est ce que dit Jérémie 29, 13. Si on le cherche de tout notre cœur, on a dit, c'est de l'abondance du cœur que par la bouche on revient. Est-ce que votre cœur se préoccupe? Est-ce que votre cœur cherche la parole? Est-ce que vous-même vous cherchez à reconnaître Jésus, à connaître Jésus? Alors si de tout votre cœur vous le cherchez, vous le reconnaîtrez. Et alors là, c'est le moment qui est trop beau. Ils sont rassemblés, ils sont à huis clos, ils sont dans cette auberge, dans ce lieu, ils se sont arrêtés. Et là, ils s'arrêtent, ils sont attentifs, ils peuvent s'asseoir avec Jésus. La chance, ils peuvent s'asseoir avec Jésus et ils peuvent partager le pain. Et c'est à ce moment que leurs yeux s'ouvrent. Le pain, c'est la parole de Dieu. On le sait, non? Est-ce que vous le savez? Le pain, c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas pouvoir manger ça. Je ne pense pas que ça soit comestible. Bien que Jérémie le dit, quand tes paroles sont venues, elles étaient aussi délicieuses que le miel. Mais le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Et là, quand on entend ce moment où Jésus partage le pain, il partage la parole. Il partage le pain de vie. À huis clos, en intimité, on partage la parole. Alors boum, révélation, les yeux s'ouvrent. Les yeux des disciples s'ouvrent et leur donnent du zèle pour accomplir leur mission, elle leur donne une direction. Parce qu'ils ont partagé la parole, parce que la parole prend vie, alors qu'ils l'ont médité, alors qu'ils ont passé un bon moment sur le chemin. Et là, ils s'asseyent et vraiment, ils prennent le temps de dire, waouh, mais c'est Jésus, on partage le pain, on partage la parole, c'est Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être attaché à la parole. Et priez pour les pasteurs, j'ai juste envie de dire ça, priais pour que les pasteurs, stagiaires, peu importe, mais que les personnes qui sont devant les pupitres, je priais l'autre jour qu'il n'y ait pas de faux prophètes, que ce soit des gens qui soient attachés à la parole. Mais priez pas que pour cette église, priez pour les autres églises de Genève, priez pour que dans les églises, ce soit des hommes et des femmes qui soient attachés à la parole, qui soient attachés à ce temps d'intimité à huis clos avec Jésus, là où la parole est révélée, là où Jésus est révélé. Et pas justement que des histoires. Jésus nous parle, et lorsque nous entendons sa voix et la reconnaissons, alors nous pouvons accomplir son plan avec zèle et assurance. Du moment où ils ont reconnu la voix, du moment où ils ont reconnu Jésus, du moment où la parole a pris vie, du moment où ils ont vraiment médité, en fait, ils ont passé du temps, et là, vraiment, leurs yeux s'ouvrent, leur foi grandit. « Oh, c'est Jésus, oui, il est mort et ressuscité. Oui, c'est le troisième jour. Oui, il est ressuscité, amen. Il est ressuscité. » Je me disais, mais waouh, je vais parler de Jésus ressuscité. Mais c'est le plus beau sujet qu'on devrait parler. C'est que Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Amen. Et ça nous remplit de zèle. On a envie d'agir. Et c'est exactement ce que vont faire les disciples. Leur cœur est rempli de joie. On ne voit pas qu'ils sont remplis de joie au moment où c'est révélé. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et puis là, on voit, notre cœur brûlait, mais c'est pas dit, mais moi, je suis sûr qu'au moment, ils ont dit, waouh, c'est Jésus, il est vivant! Yes! Mais imaginez, Jésus, waouh, il est vivant, mais c'est pas vrai, il nous a dit qu'il allait mourir et ressusciter, il est vraiment ressuscité. Mais j'imagine pas leur délire, quoi. Alors, à ce moment-là, c'est clair, genre, tout ce qu'ils étaient en train de faire, en plus, à ce moment-là, on voit, il disparaît. Alors, bon, là, c'est Jésus, hein, c'est les nouveaux corps, il peut apparaître, disparaître, ça, c'est cool. C'est mieux qu'un magicien. Mais à ce moment-là, il est disparu. Mais ils l'ont reconnu. C'est bon. Jésus, il est venu. Voilà, vous avez reconnu. Je suis venu vous parler de la parole. Je vous ai vu. Vous étiez préoccupé par moi. Je veux pas vous laisser dans cet aveuglement de ce qui vous préoccupe du monde. Je veux vous révéler qui je suis. Je veux vous révéler qui je suis dans ma parole. C'est ce qu'il fait. Et là, alors à ce moment-là, justement, boum, tout s'arrête. Ils veulent aller partager cette parole. Il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche. Lorsqu'on connaît la vérité, on souhaite la partager autour de nous, ou du moins j'espère. Du moins j'espère, vraiment. Nous sommes prêts à retourner dans un endroit où existent les défis, le Jérusalem, car nous savons que la vérité nous rend libres et rien ne peut nous arrêter. Si vous avez la vérité, si vous avez votre salut, si vous avez le Seigneur qui vit en vous, il est ressuscité, il ressuscite tout ce qui est mort, tous vos soucis, ils passent à la trappe, vous êtes prêts à affronter les défis, parce que Jésus est avec vous. Et on est vraiment interpellé par le ministère incroyable de l'apôtre Paul. Mais lui, combien de fois il a dit, genre, moi ce que je veux une seule chose, c'est parler de Christ ressuscité, de la crucifixion et de la résurrection de Christ. Et celui qui m'en empêche, je continuerai. Lorsqu'on l'annonce avant qu'il remonte à Jérusalem, avant d'être arrêté, on lui dit, il va être bâillonné comme ça, je crois que c'était à Éphèse, je ne sais plus dans quelle ville exactement, mais on prophétise sur la façon dont il va être arrêté. Il est là, mais c'est pas grave, moi, ça me dérange pas, je vais y aller. Parce que j'ai qu'une seule chose, je veux annoncer Christ ressuscité. Parce que c'est tout ce qui m'importe. Et aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, j'aimerais vraiment que ce soit ça qui nous importe le plus. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on trouve le salut, alors tout le reste devient second. Et dans Matthieu, si on lit dans Matthieu 13, 44, on dit, c'est celui qui, et il y a plusieurs versets, celui qui trouve la perle vend tout, celui qui trouve ce trésor vend tout, et tout le reste, pff, à la poubelle. Tout le reste, ça n'a plus d'importance quand vous avez trouvé le Christ ressuscité. Et je vous parle bien du Christ ressuscité, je ne vous parle pas du Christ crucifié. Je vous parle du Christ ressuscité. Parce qu'il n'a pas été à la croix pour y rester. Et c'est ça l'histoire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il est mort et ressuscité. J'arrive bientôt au bout. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir parler. En tout cas, parler de lui, j'espère. On est dans la joie et on veut parler. On veut partager. Les disciples, ayant reçu la révélation du Christ ressuscité, n'ont pas perdu de temps. Ils quittent l'auberge. La révélation seule de la résurrection était suffisante pour animer leur foi et leur désir. C'était la seule révélation qu'ils ont eue. C'est tout. À ce moment-là, il y a tout qui s'arrête. Ils partent. Notre degré de révélation de la croix influencera notre degré de joie et notre zèle à annoncer la bonne nouvelle. Moi, je pense, et je lis différents puritains, mais la plupart de ces gens, que ce soit même dans la Bible, en fait, tous les gens qui ont été zélés pour Jésus, c'est des gens qui ont des révélations de la croix. Des révélations de la croix, mais c'est-à-dire de la croix vide. C'est ça. Et qu'en est-il aujourd'hui de notre révélation de la croix? Aujourd'hui, je m'interpelle ici, je la demande davantage, personnellement, d'avoir une plus grande révélation de la puissance de la croix, de la puissance du Christ ressuscité. Je ne peux pas vous parler de... C'est pas possible, je ne pourrais pas vous parler, par exemple, de la richesse des coraux, de toute sa diversité, si je n'étais pas, j'avais pas approfondi et étudié les coraux. C'est pas possible, je ne peux pas vous parler d'un sujet en détail et convaincu si je ne l'étudie pas. Et c'est exactement la même chose avec Jésus. C'est en demeurant dans sa parole, c'est en étant proche de lui, c'est en étant préoccupé de son royaume, en étant préoccupé de ce que lui est préoccupé, qu'on va pouvoir le connaître, qu'on aura une plus grande révélation, c'est en la désirant. Nous devons marcher avec Jésus et écouter ce qu'il souhaite nous dire à travers sa parole. Prendre le temps de l'écouter, de s'arrêter et de méditer sa parole. C'est en s'arrêtant, vous avez vu, dans ce passage, ils marchent les disciples, donc ils sont en train d'écouter Jésus parler, mais ils ont quand même dû s'arrêter. Ils ont quand même dû s'arrêter. S'arrêter, dire à Jésus, viens, on a envie que tu viennes dans notre vie, on a envie de plus, mais ils ont dû s'arrêter. Et vous devez aussi, et moi aussi, on doit s'arrêter. C'est pas juste, ouais, Jésus, de temps en temps, tu vois, quand on marche, et puis on fait notre journée, puis on pense un peu à Jésus, je lis vite un verset sur mon téléphone, c'est bien. Je vais pas dire que c'est pas bien, mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut prendre du temps, il faut méditer. À ce moment-là, on peut avec assurance s'approcher du trône de grâce. Et on peut venir déposer notre vieille nature et se revêtir de notre nouvelle nature. De notre nouvelle nature. La nouvelle alliance, notre nouvelle nature, celle du Christ ressuscité qui vit en nous. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort et ressuscité, il vit en nous, c'est notre nouvelle alliance, il est là. Arrêtez avec vos projets, j'ai un nouveau projet pour toi. Aujourd'hui, on doit agir, et c'est aujourd'hui que Jésus souhaite nous ouvrir les yeux de votre voisin, de votre voisine, par la puissance de sa parole. C'est aujourd'hui. Et c'est aussi aujourd'hui que Jésus nous appelle à faire des disciples. Et ce n'est pas demain, parce que c'est le commandement qu'il a donné à ses disciples. Alors qu'ils avaient la révélation du Christ ressuscité, il a dit « Allez-y et faites des disciples. N'arrêtez pas, allez-y. Et annoncez ce que vous avez vu, annoncez ce que je vous ai révélé. Annoncez ce que je vous ai révélé. Ne perdez pas de temps. » Alors que j'arrive sur la fin, je voudrais juste rappeler un petit peu de quoi on a parlé aujourd'hui. Jésus se préoccupe de chacun des détails de votre vie. Il n'y a rien de votre vie qui ne l'intéresse pas. Rien. Il est passionné par vous. Jésus est passionné par nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je pense que je ne m'en rends pas encore compte. Il désire vous faire connaître ses plans et vous faire vivre ses promesses. Mais est-ce que vous préoccupez? Est-ce qu'on se préoccupe de Jésus? Est-ce qu'on se préoccupe à le connaître? Est-ce qu'on cherche à le connaître? Est-ce que vous prenez le temps? Est-ce qu'on prend le temps de faire des tête-à-tête avec Jésus, allumer la bougie et faire un tête-à-tête avec Jésus? Et de le laisser se révéler à nous dans sa parole. Est-ce qu'on a rencontré le Christ crucifié, ressuscité? Aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une situation où vous marchez, vous avez la tête baissée, vous n'arrivez pas à voir avec les yeux de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites, mais non, mais Jésus ne me parle pas. Parce que vous vous préoccupez des choses qui vous concernent vous. Jésus, il est avec vous en train de marcher. Il le dit, il est en train de marcher avec vous. Il faut vous arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'avoir une plus grande révélation de la résurrection de Jésus ?